Bonsoir, 20h30 sur France Culture, l'heure de retrouver le feuilleton. En direct ce soir du studio 114 de la Maison de la Radio, une adaptation par Nadine Hegels du livre d'Alain Badiou, La République de Platon, présenté par l'auteur lui-même et réalisé par Cédric Ossier. Un projet en partenariat avec le TNP de Villeurbanne qui propose de son côté, du 19 au 22 mars, un programme de lecture intitulé « 5 jours en compagnie d'Alain Badiou ». Deux adaptations donc proposées la même semaine, l'une au théâtre, l'autre à la radio, pour donner encore plus d'écho à ce livre ambitieux et inclassable. Tout de suite, le feuilleton en direct du studio 114 de la Maison de la Radio.
La République de Platon, de Alain Badiou. Adaptation, Nadine Hegels. Deuxième épisode.
Réduire le sophiste au silence.
Voici le deuxième moment de ces lectures de mon livre « La République de Platon ». Nous en sommes restés à la réfutation par Socrate de la première définition de la justice, proposée par le vieux Céphale, puis par le raisonnable amoureux des poètes, Polémarque. Cette définition consistait d'abord à dire qu'il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Puis, après que Socrate ait montré que cette définition ne valait rien, une autre définition est proposée, qui est qu'il faut faire du bien aux gens de bien et du mal aux canailles. Mais Socrate réfute aussi cette définition à partir du principe selon lequel l'homme juste ne peut être défini par l'obligation de nuire à quelqu'un, quelles qu'en soient les raisons. On est donc toujours dans l'impasse. À ce moment, entre en scène un personnage haut en couleur, le sophiste Thrasymaque, qui, comme vous allez l'entendre, va proposer une toute nouvelle définition de la justice. Voyons comment Socrate va peu à peu le réduire au silence.
Commençons par le commencement. Si la justice n'est pas ce que les poètes et les tyrans prétendent qu'elle est, que peut-elle bien être ?
La question de Socrate était tombée dans un silence pesant. Profitant du désarroi qui suivait le retour à la forme initiale de la question, s'évadant enfin du calme qu'on lui avait imposé, bandant tous ses muscles, ramassé sur lui-même comme un fauve qui va sortir ses énormes griffes, Thrasymaque s'avança vers Socrate pour le déchiqueter et le dévorer tout cru. Socrate et Polémarque, terrifiés, firent un bond en arrière. Parvenu au centre de la pièce, le monstre fusilla du regard toute l'assistance et se mit à parler d'une voix à laquelle le haut plafond de la salle, les baies vitrées, la nuit couchée sur les voiles, le monde entier semblait conférer la puissance du tonnerre.
Quel minable bavardage nous inflige ce Socrate depuis des heures. Qu'est-ce que c'est que ces courbettes que vous vous faites en nous arrosant tour à tour de vos idioties? Si tu veux savoir ce que c'est que la justice, cesse de poser des questions dans le vide et de te frotter les mains quand tu as réfuté ce que bafouille un obscur comparse. Les questions, c'est facile. Les réponses, ça l'est moins. Dis-nous une bonne fois comment, toi, tu définis la justice. Parce que moi, je ne ferai pas comme tous les figurants de ton cirque. Je ne supporterai pas ton verbiage.
À ces mots, Socrate qui joue ou éprouve une stupéfaction craintive détourne son regard, puis il enchaîne d'une voix un peu tremblante.
Cher Thrasymaque, ne te fâche pas contre nous. Si nous nous sommes complètement trompés, Polémarque et moi, dans l'examen du problème, tu sais bien que c'est involontaire. L'hypothèse la meilleure est que, tout simplement, nous sommes incapables de trouver ce que nous cherchons. Auquel cas, je te le dis, à toi et à tous les habiles dans ton genre, plutôt que de nous enfoncer, ayez pitié de nous.
À la fin de cette tirade, Trasimaque éclate d'un rire sardonique qui fait frissonner toute l'assistance.
J'avais bien raison, nom d'un pétard. La voilà bien, la fameuse ironie socratique. Je l'avais dit, je l'avais prédit à mes voisins. Jamais Socrate n'acceptera de répondre à une question précise. Par Héraclès, je vous l'avais bien dit.
Mais mon très cher, comment puis-je répondre, étant donné, premièrement, que je ne sais pas, deuxièmement, que je passe mon temps à dire que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. C'est plutôt toi qui dois parler, puisque, premièrement, tu dis que tu sais, et que, deuxièmement, tu sais ce que tu dis. Allez, ne te fais pas prier.
Glauque et tous les autres font chorus. Ils supplient Trasimaque de céder. Il s'avance alors, bien droit, et ferme les yeux comme la pitié méditante. Dans le patio envahi par l'ombre, le silence est impressionnant.
Écoutez, écoutez bien. Je dis que ce qui est juste n'est et ne peut être rien d'autre que l'intérêt du plus fort.
Il braque alors sur Socrate son regard écrasant. Mais le silence se prolonge, car Socrate, lui, petit et ventru, les yeux ronds, les bras ballants, prend l'air d'un chien à qui l'on propose un quartier de citrouille.
Je ne vois pas venir tes fameux éloges. Tu restes muet comme une carpe. Tu es vraiment mauvais joueur, totalement incapable de saluer la victoire de ton adversaire.
Pardonne-moi, mais il faut d'abord que je sois sûr de te comprendre. Voyons, tu dis ce qui est juste et l'intérêt du plus fort. Que signifie exactement cet énoncé?
Tu as besoin d'un exemple?
Oui.
En voici un. Tu sais que les constitutions des différents pays peuvent être monarchiques, aristocratiques ou démocratiques. On constate alors que tout gouvernement fait des lois en faveur de son intérêt propre. Les démocrates font des lois démocratiques, les aristocrates des lois aristocratiques, et ainsi de suite. En somme, les gouvernements qui disposent de la force déclarent légal et juste ce qui est dans leur intérêt. Si un citoyen désobéit, il le châtie en tant qu'il viole la loi et commet une injustice. Voilà, mon cher, ce que je dis être uniformément le juste dans tous les pays, l'intérêt du gouvernement en place. Et puisque c'est ce gouvernement qui a le monopole de la force, la conséquence est que le juste est l'intérêt du plus fort.
J'ai compris ce que tu voulais dire. Malheureusement, je ne suis pas du tout sûr que ce soit vrai. Voyons, il m'a semblé comprendre que pour toi, il est juste d'obéir aux dirigeants de l'État. Par ailleurs, tu admets, je suppose, que ces dirigeants ne sont pas infaillibles, mais que faillibles, ils le sont.
Évidemment.
Par conséquent, quand ils se mêlent de promulguer des lois, ils font ça tantôt comme il faut, tantôt tout de travers, non?
Arrête de débiter des platitudes.
Alors, si on adopte ta définition de la justice, on peut conclure qu'il est juste non seulement de faire ce qui est dans l'intérêt du plus fort, mais aussi, et ça, c'est admirable, le contraire. Ce qui va contre l'intérêt du plus fort.
Qu'est-ce que tu nous chantes?
Nous étions d'accord sur un point. Bien qu'il arrive aux dirigeants de se tromper quant à ce qui est leur intérêt véritable, il demeure invariablement juste que les dirigés fassent exactement ce que les dirigeants leur ordonnent de faire, oui ou non?
Je te l'ai dit et répété, quelle fatigue, oui et oui.
Tu as donc accordé qu'il est juste d'aller contre l'intérêt des dirigeants, donc des plus forts, quand ces dirigeants ordonnent involontairement de faire des choses mauvaises pour eux, puisqu'il est juste de faire tout ce que prescrivent les susdits dirigeants.
L'agitation produite dans l'assemblée par cette tirade est considérable. Polémarque se réveille en sursaut. Le pâle Clitophon rougit, Glauque trépigne. Amanta malaxe nerveusement son oreille gauche. C'est Polémarque qui se jette à l'eau, suivi par Clitophon.
Je crois crois que Trasimaque n'a plus qu'à aller se rhabiller.
C'est ça, puisque Polémarque l'a dit, Trasimaque doit le faire.
Trasimaque s'est pris les pieds dans le tapis. Il a convenu que les dirigeants ordonnent parfois de faire ce qui s'oppose à leur intérêt et qu'il est juste que les dirigés le fassent, d'où il résulte que la justice n'est pas plus l'intérêt du plus fort que ce qui va contre cet intérêt.
Mais quand Trasimaque parle de l'intérêt du plus fort, il s'agit d'un phénomène subjectif,
oui.
Ce que le plus fort estime être son intérêt. C'est cela que le plus faible a l'obligation de faire, et c'est cela qui, pour Trasimaque, est juste.
Et c'est pas du tout ce qu'il a dit.
Socrate, ou tu es de mauvaise foi, ou tu ne comprends rien. M'imputerais-tu l'idée ridicule selon laquelle le plus fort est celui qui se trompe au moment même où il se trompe ? C'est comme si tu appelais médecin celui qui se trompe sur l'origine des souffrances d'un malade au moment même où il se trompe. Selon moi, quand nous disons que le médecin se trompe, ce ne sont que des paroles creuses. En effet, celui qui se trompe ne se trompe qu'autant que son savoir l'abandonne, et donc quand il a cessé d'être le médecin que nous supposions qu'il était. J'en conclus que, selon moi toujours, de ceux que nous nommons savants ou chefs d'État, aucun ne se trompe en tant qu'un de ces noms lui convient.
Selon toi, encore et toujours, je suis en somme un imbécile. Selon toi, c'est pour te nuire que je t'ai questionné comme je l'ai fait. Hein? Selon toi?
Parbleu, c'est clair comme de l'eau de roche. On les connaît, les fourberies de Socrate. Mais selon moi, tu pars battu.
Avant que je sois battu, et pour ne donner aucun prétexte à mes fourberies, pourrais-tu répondre à une dernière question? Le médecin, au sens précis du mot, celui dont tu parlais à l'instant, quel est son but véritable? Gagner de l'argent ou soigner des malades?
Soigner les malades, évidemment.
Et l'amiral? L'amiral adéquat à son nom. Est-il le chef des marins? Où n'est-il lui-même qu'un marin?
Ah, tu m'embêtes. Il est le chef des marins, voilà. C'est bien pour te faire plaisir.
Que par hasard, un amiral navigue solitairement sur une vulgaire barcasse n'a, quant à l'appellation amiral de la flotte, aucune influence et ne conduit pas à l'appeler simple marin. Car ce n'est pas en tant qu'il navigue ainsi ou autrement qu'on l'appelle amiral, mais en raison de son savoir-faire et du pouvoir qu'il a sur les marins. D'accord? Selon toi, en personne.
D'accord. Mais tu nous fais perdre notre temps avec ces foutaises maritimes.
En tout cas, il est clair que le médecin et l'amiral ont un intérêt qui leur est propre. Et le savoir-faire qui est le leur vise à chercher, puis à procurer à chacun, cet intérêt. Évidemment, un savoir-faire pris en lui-même n'a pas d'autre intérêt propre que sa perfection possible. On peut donc...
Pas si vite.
Quoi ?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'intérêt d'un savoir-faire dont par ailleurs le seul intérêt est l'intérêt de celui qui possède ce savoir-faire? Je vois venir une entourloupe à la Socrate.
Tu es bien obligé de dire que la vraie médecine vise à soigner les corps. Donc la médecine ne s'occupe pas de l'intérêt de la médecine, mais uniquement des intérêts du corps. Une technique n'a nullement cure de son propre intérêt, mais uniquement de l'intérêt de son objet, de ce à quoi s'applique le savoir-faire qu'il a défini. Voici alors ma question. Un savoir-faire obtient de ce à quoi il s'applique les effets qu'il recherche, non? Sinon, il n'est pas un savoir-faire, il n'est que la technique de rien.
Évidemment, tes longs détours sont d'un naïf.
Mais ce qui obtient de quelque chose les effets qu'il en attend est véritablement ce qui commande, ce qui exerce son pouvoir sur cette chose, non?
Je ne crois pas, selon moi, qu'on puisse dire le contraire.
Donc, la technique est en position de gouvernant, de chef, en somme, au regard de son objet. La médecine gouverne le corps. L'amiral est le chef des marins. Pour ce qui concerne les corps souffrants et les marins qui galèrent, le médecin et l'amiral sont les plus forts. Cependant, tu l'as toi-même admis sans la moindre hésitation, ils ne servent nullement leur propre intérêt, mais l'intérêt de ce qui est plus faible, de ce qui est par eux-mêmes gouverné, le corps dont ils désirent la santé, les marins dont ils désirent qu'ils réussissent à naviguer convenablement. Ainsi, aucun savoir technique ne propose ni n'ordonne l'intérêt du plus fort. Finalement, nous voyons qu'aucun chef, aucun gouvernement considéré en tant que chef, ne propose ni n'ordonne ce qui convient à son propre intérêt. Au contraire, il prescrit l'intérêt de ceux qu'il commande ou gouverne et pour lesquels il exerce son savoir-faire. Et c'est en vue de ces gens-là, les gouvernés, les dominés, les souffrants, les galériens de la vie, qu'un véritable maître, un juste maître, dit ce qu'il dit et fait ce qu'il fait. La justice, cher ami, concerne l'intérêt des autres, semble-t-il, et non l'intérêt de soi-même, y compris et surtout si on est le plus fort.
Il y a alors, comme on dit dans les comptes rendus d'assemblée, des mouvements divers. On sourit, on chuchote, on prend un air important ou accablé. Tout le monde a conscience d'un tournant dans la discussion. La définition de la justice proposée par Trasimaque a été tout bonnement changée en son contraire. On se tourne avec miséricorde vers lui, on attend, sans trop y croire, sa riposte, mais elle surprend tout le monde quand elle vient.
Tu te crois à l'avant-garde des questions qui tournent autour du juste et de l'injuste, ou de la justice et de l'injustice, comme tu préfères. Alors qu'en fait, tu en ignores le béaba. Tu patauges dans l'ignorance la plus crasse concernant toute une série d'évidences empiriques. Par exemple, que les dominés n'agissent que sous la règle de fer de l'intérêt du plus fort, et ce faisant contribuent à son bonheur et nullement au leur propre. Ce qui me frappe au fond, c'est ton incroyable naïveté. Comment ne vois-tu pas qu'un juste, confronté à un injuste, perd à tous les coups? Prends le cas des impôts et des rétributions. À égalité de revenus, le juste paie toujours plus d'impôts que l'injuste et il ne reçoit pas un fifrelin de l'État, alors que l'injuste touche le paquet. Supposons maintenant que le juste, puis l'injuste, soit nommé dirigeant de la direction d'un service de l'État. D'un côté, qu'arrive-t-il alors au juste? Au mieux, le plus souvent c'est bien pire, d'une part, ses affaires personnelles tombent en quenouille, faute qu'il puisse y consacrer le temps nécessaire. D'autre part, vu qu'il est juste, il s'interdit de prélever ne fût-ce qu'un centime dans les caisses publiques. Ce pauvre type se fait haïr de sa parentèle et de ses familiers parce que, toujours la justice, il refuse catégoriquement de les pistonner pour qu'ils gravissent à vive allure les échelons du fonctionnariat. D'un autre côté, qu'arrive-t-il à l'injuste? Exactement le contraire de ses calamités. Je parle naturellement de l'injuste authentique, celui qui foule aux pieds la piétaille. C'est lui qu'il faut observer si tu veux mesurer la distance entre les jouissances de l'injuste dans le secret de sa vie privée et la pitoyable médiocrité du juste qui vit en pleine lumière. Ainsi, cher Socrate, nous avons démontré que l'injustice, dès qu'on la pousse aussi loin qu'il le faut, est plus puissante, plus intrinsèquement libre, plus souveraine que ne l'est la justice. Comme je l'ai dit dès le début, la justice est dans son essence l'intérêt du plus fort, et l'injuste se paie à lui-même les intérêts du capital qu'il représente.
Ayant ainsi déversé dans les oreilles du public ébaubi tel un pompier sur le feu l'énorme sceau de son discours, Trasimaque pense se retirer sous les applaudissements, vainqueur incontesté du combat des rhéteurs.
Cher Trasimaque, je vais être franc avec toi, tu ne m'as pas convaincu. Je ne crois pas que l'injustice rapporte plus au sujet que la justice, pas même dans les conditions limites que tu nous as décrites avec virtuosité. Il est en effet désormais établi qu'aucune technique, aucune position dominante n'ont pour but ou fonction leur propre intérêt. Comme nous l'avons déjà dit, elles n'ont en vue et ne prescrivent, s'il s'agit d'une technique, que ce qui concerne l'intérêt de ce qui en est l'objet et l'enjeu. Et s'il s'agit d'une position dominante, elles ne visent que l'intérêt des gens dominés. Celui qui, au service d'un client, met en œuvre une technique de façon efficace et bien ajustée, n'a jamais en vue ni ne prescrit son propre bien. Il ne s'occupe que des biens de celui pour lequel il travaille, auquel il est cependant supérieur, puisqu'il maîtrise une technique que l'autre ignore. C'est pour redresser ce paradoxe apparent, le supérieur au service de l'inférieur, qu'il faut presque toujours garantir un très bon salaire à celui qui accepte un poste hiérarchiquement élevé, salaire versé sous forme d'argent ou d'honneurs variés. Ce qui prouve que celui qui est le plus fort dans un domaine déterminé n'est aucunement par cela seul au service de son intérêt, mais bien au service de l'intérêt des autres. Raison pour laquelle il faut le payer pour que quelque chose de tout à fait extérieur à ce qu'il sait faire serve son propre intérêt. Mais le payer n'a en soi aucun rapport avec sa supériorité technique de médecin, d'amiral ou de chef d'État, laquelle reste au service des autres. Ainsi, la question du juste et de l'injuste n'a rien à voir avec l'intérêt du plus fort.
Il ne reste plus au professeur Socrate qu'à festoyer jusqu'au matin. Et moi, Thrasymaque, je n'ai plus qu'à la boucler. Je sais me tenir, les amis. Vous allez voir ce que c'est que le silence d'un virtuose des discours. Mais je n'en pense pas moins.
Là-dessus, Thrasymaque tire un fauteuil dans le coin le plus sombre de la pièce, s'assied et ferme les yeux. Il va ainsi rester très longtemps absolument immobile. Socrate s'adresse à lui sans toutefois le regarder.
Tu es co-vainqueur de la joute, cher Thrasymaque. Tu m'as répondu presque aimablement, laissant tomber tes grands airs et tes discours en plomb. À mon avis, le festin intellectuel n'a pas été très nourrissant. Mais c'est ma faute, et non la tienne. J'ai fait comme ces goinfres qui se précipitent sur le plat qu'on vient de servir à table, sans avoir vraiment savouré le précédent. Au tout début, nous cherchions une solide définition de la justice. Avant de l'avoir trouvée, je me suis jeté dans l'examen d'une question dérivée concernant les prédicats qui conviennent à la justice, est-elle vice et ignorance ou sagesse et vertu. Et voici qu'une autre question est venue par le travers. L'injustice est-elle plus avantageuse que la justice? J'ai aussitôt quitté le sujet précédent pour traiter le petit dernier. Le résultat de tout notre dialogue, c'est que je ne sais rien. Car si je ne sais pas ce que c'est que la justice, je saurai encore moins si elle mérite ou non d'être appelée vertu, et encore bien moins si celui qui est juste est heureux ou malheureux.
Tout comme Thrasymaque, quoiqu'à l'autre bout du salon, Socrate s'enfonce alors dans son fauteuil. Il s'éponge le front.
Pardonnez-moi, jeunes gens, il est déjà tard. Je suis très fatigué. Il y a eu des flots de paroles et nous n'en savons pas plus que quand nous marchions à moitié ivres sur la route d'Athènes après la fête de la Vénus du port.
La République de Platon de Alain Badiou, adapté par Nadine Eggels. En direct du studio 114 de la Maison de la Radio. People, avec le narrateur, Guillaume Marquet, Socrate, Olivier Clavery, Thrasymaque, Mohamed Rouhabi, Polémarque, John Arnold, Clitophon, Henri Alexandre. Présentation, Alain Badiou. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. La République de Platon de Alain Badiou est publiée chez Fayard. Équipe technique, Olivier Dupré, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Cédric Ossir. You know, sometimes I'm so carefree, but the joy that's hard to hide. Sometimes
Seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do. I don't mean it. People, don't you know I'm only human? Don't you know I have thoughts like anyone?
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr.